machine est-elle plus forte que l'homme au poker ?
Ah, c'est la question phare de notre siècle, je pense, à l'heure où l'intelligence artificielle nous fait trembler et le fantasme de la supériorité de la machine sur l'humanité reste omniprésent. Il y a encore quelques années, le poker aurait pu nous rassurer, mais ce sera pour la fin de la chronique. On parle beaucoup de l'exemple des échecs pour lesquels le doute n'existe plus. On se souvient de ce match historique entre le logiciel Deep Blue et le champion du monde Garry Kasparov. C'était en 1997. La défaite de l'homme par la machine ébranlait notamment la Russie. Alors depuis, les logiciels se sont encore plus perfectionnés et dépassent très largement les meilleurs joueurs mondiaux d'échecs. Mais la situation est plus contrastée pour d'autres disciplines, comme par exemple pour le poker. Et pourtant, il y a pas mal de points communs entre les deux. Ce sont des jeux séquentiels, stratégiques, qui demandent beaucoup de concentration, une certaine gestion du stress, une résistance à la fatigue mentale, on l'a évoqué. Dans ces domaines, l'intelligence artificielle, elle est imbattable. Alors pourquoi la machine a du mal à s'imposer face à l'homme quand il s'agit de poker ? Parce qu'au poker, eh bien, il y a quelques caractéristiques que l'intelligence artificielle n'aime pas beaucoup. Vous les avez devinées ?
Côté humain, j'imagine, quand même.
Oh, c'est vague, ça, Jim, c'est vague.
Le bluff psychologique.
Le bluff, le côté psychologique et surtout le hasard. Alors, à long terme, on a évoqué cette différence entre le long terme et le court terme. Un robot peut gagner une partie à deux joueurs s'il maîtrise parfaitement les probabilités. Mais dès que le nombre de joueurs se multiplie, là, il se fait plumer. Bah oui, le casse-tête, il devient quand même vachement compliqué parce qu'on doit essayer d'analyser les décisions de l'adversaire en fonction de nos propres décisions et les décisions de l'adversaire en fonction des décisions des autres adversaires. Donc, pour une machine, ça bug. Alors, si on ajoute le bluff, ça devient encore plus compliqué. Une machine bluffe très difficilement, parce que bluffer, ce serait jouer d'une manière irrationnelle sans tenir compte de la réelle force des cartes en présence. Or ça, pour un robot, c'est un peu compliqué. Et puis, pour affronter un bluffeur, il faut pouvoir déceler le bluff. Et c'est là que notre invité va nous enseigner pas mal de choses intéressantes. Les mains qui tremblent, la voix plus haut perché, le rythme du jeu qui s'intensifie ou qui se ralentit. Bref, on pourrait être rassuré, le robot ne peut pas vaincre un joueur de poker. Et puis Jim m'a dit, mais Katharina, attends, lis un peu cet article parce que j'ai l'impression qu'il y a du nouveau. Et effectivement, une étape importante a été franchie par Pluribus il y a quelques années. Un robot qui a réussi à battre les plus grands joueurs de poker au monde dans un jeu à 6 joueurs. Bref, tout ça pour vous demander. David Ikitaï, maintenant que l'intelligence artificielle a franchi cette étape quand même importante, est-ce que vous vous sentez menacé? Et quel rapport, en règle générale, vous entretenez avec l'intelligence artificielle, avec la machine, puisque vous faites partie des métiers qui a été quand même très vite confronté à cette intelligence artificielle.
Ouais. Non, ça a été une révolution dans le poker, tout comme dans les échecs. Et en fait, c'est quelque chose de positif, parce que ça nous permet de travailler notre jeu. On utilise ce qu'on appelle les solvers pour travailler notre jeu. Et ça nous donne les solutions, en fait, contre un robot. Donc, contre une personne qui joue aussi parfaitement, ça nous donne la solution optimale. Et donc, c'est une super manière de travailler son jeu. Surtout que la réalité, c'est que la plupart des joueurs ne jouent pas comme des robots. Donc après, ce qui va être important, ça va toujours être de s'adapter à son adversaire, d'exploiter ses faiblesses. Et donc voilà, c'est un super outil pour travailler son jeu. Tout comme les échecs, les joueurs d'échecs travaillent beaucoup avec les solvers.
Vous l'avez battu, vous, ce Pluribus?
Non, effectivement, je n'ai jamais joué contre un robot. Mais comme l'a bien expliqué Katharina, en heads-up, c'est impossible de le battre.
Donc c'est du 1 contre 1.
Ouais, c'est du 1 contre 1. Là, c'est pas possible de le battre. Mais ça ne veut pas dire qu'un robot ferait le meilleur résultat parce qu'il aura du mal à s'adapter à son adversaire et à exploiter ses faiblesses.
Ouais. Vous venez du poker en ligne, David Ikitaï. Ça a amené, on l'a dit, une certaine révolution dans le monde du poker. Si je vous demande de vous projeter dans les 10-20 prochaines années, à quoi pourrait ressembler le monde du poker selon vous? Est-ce qu'il va rester comme il est aujourd'hui ou est-ce qu'on peut s'attendre à de grandes révolutions? Comment vous l'imaginez, vous?
Ouais, non, l'idée, c'est que les solvers, c'est des milliers de combinaisons. J'ai dit des milliers, mais des milliards de combinaisons. Donc, c'est impossible d'apprendre tout par cœur. Donc, les gens seront de plus en plus forts, on va dire, techniquement. Et je pense qu'il y aura une deuxième révolution qui est par la suite. Ça va être l'analyse comportementale des gens, mais ça sera plus effectif pour le live.
Mais ça, c'est vrai que, par exemple, un mentaliste, enfin, au poker, il est imbattable.
On en a reçu des mentalistes.
Non, mais c'est vrai. Si on décèle toutes les micro-expressions du visage, on voit quand les gens bluffent, a priori.
Ouais, c'est vrai. Après, il faut que le mentaliste ait quand même des compétences au niveau du poker, parce que c'est assez particulier comme milieu.
Il y a des maths aussi dans le poker. Est-ce que vous utilisez ça, par exemple? Parce que si une certaine... On l'a vu dans la vidéo que vous avez présentée tout à l'heure, les probabilités de victoire ou de défaite. Ouais. Est-ce que vous faites, vous, tous ces calculs dans votre tête quand vous avez une certaine carte en main et que différentes cartes tombent dans
le... Ouais, exactement. Exactement, les solvers, c'est ça, c'est des maths finalement. Ça nous donne, c'est la théorie de Nash qui est la théorie optimale à l'équilibre. Donc c'est des maths, c'est beaucoup de stats et des maths. Et ouais.
Voilà, Sciences Éco, ça servait à quelque chose. Études, évidemment, pour vos parents qui vous ont poussé à faire ça. Olivier Boulin, pour terminer, on l'a dit, David Iquita est un pro du bluff et on va tenter ici de se faire former, une formation rapide, Olivier.
Ben, vous êtes un pro du bluff au poker, mais vous êtes aussi un pro du bluff dans la vie réelle. Vous vous appuyez sur la programmation neuro-linguistique. En fait, vous pouvez détecter un mensonge grâce au comportement de quelqu'un. Alors, on imagine que ça doit être super pratique, hein, dans la vie privée avec son mec ou sa nana, par exemple.
Et ça avec ses enfants aussi. Avec ses enfants aussi, ça peut être pas mal.
Et ça nous servirait bien, à nous, pour déceler les mensonges de certains politiques qui sont parfois assis à votre place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces pour que nous aussi on puisse plumer nos amis.
Donner, ouais, j'ai un peu étudié la synergologie. La synergologie, c'est ça, c'est tous les gestes inconscients qu'on fait. Chaque fois que ça nous gratte, ça signifie quelque chose. Ah, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'il y a pas, on peut pas, si on se touche quelque part, c'est des micro-démangeaisons. C'est pour évacuer un stress, une émotion qu'on a. Donc ça veut dire quelque chose. Et souvent, les mensonges, c'est tout ce qui est lié à la zone du nez. Donc si on se touche ici, ça veut dire que ça vous devez voir souvent dans les médias. Si on se touche côté gauche, ça veut dire que je m'inquiète pour mon image. Et si on touche côté droit, ça veut dire que je m'inquiète pour l'image de mon interlocuteur. Et de manière générale, le nez, c'est beaucoup. Si quelqu'un touche souvent son nez, c'est souvent un signe du menteur. Et après, il y a la langue de vipère. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi pour les mensonges.
C'est quoi ?
C'est quelqu'un qui tire la langue comme une vipère, c'est-à-dire un petit peu et ça revient. Ça sort.
C'est quand même pas très discret, quoi.
Vous le faites souvent, ça fait
ça. J'étais sûr qu'il y en avait un pour
et faire ça, vous faites attention à chaque partie de poker, vous analysez. C'est pour ça qu'on voit parfois des joueurs avec des grandes lunettes de soleil, une casquette qui tente de.
Je pense, moi, que c'est très sous-estimé pour l'instant, ça. Mais moi, je suis un, on va dire, des seuls joueurs qui a travaillé sur la synergologie et qui en tient compte.
Parce que là, c'est encore des gestes assez... on les voit, je veux dire, se toucher le nez, tirer la langue.
Ouais.
C'est difficilement dissimulable.
Mais c'est inconscient aussi, parfois.
Est-ce qu'il y en a d'autres que vraiment, c'est un petit haussement de sourcils ou une paupière qui se ferme plus rapidement, j'en sais rien.
Ou regarder en haut à droite quand on réfléchit, par exemple.
Exactement, ouais. Le regard en haut à droite ou à gauche, c'est très significatif. C'est en vrai, le côté gauche, on réfléchit au passé, donc on se remémore un souvenir, alors que le côté droit, c'est la partie de, selon l'hémisphère du cerveau,
créative.
C'est la partie créative, exactement.
Et on invente,
et donc ça veut dire qu'on est en train d'inventer une histoire quand quelqu'un regarde.
Et vous, c'est quoi votre poker face?
Ouais, après, il y a la gestion de nos propres émotions, et ça, c'est super important. Mais c'est super dur, effectivement. C'est juste ça. C'est pour ça que les joueurs font beaucoup de méditation, parce que c'est très important de rien dégager.
Ah, il y a des gens expressifs. Dès qu'on est expressif, on peut pas gagner. Quoi, les gens trop expressifs, on peut
Olivier,
pas.
On voit l'image. On venait de voir l'image justement. Vous avez un côté très très calme où vous cachez vos émotions. Ouais. C'est votre tactique finalement.
Voilà. Après, il y a des joueurs qui ont plus facile que d'autres. Il y en a d'autres qui doivent un peu le travailler, mais de manière générale. Il y a des choses, c'est pour ça que je travaille la synergologie, c'est que c'est impossible, ça vous gratte, vous devez vous gratter.
Bah oui, c'est ça.
C'est impossible de pas le faire.
Oui. Et ça vous est déjà arrivé de vous gratter en vous disant mince, là je suis vraiment en train de montrer que je suis dans la merde.
Non, j'ai la chance que mes adversaires, ils ont pas étudié la synergologie.
Et quelle est la plus grosse peur que vous ayez eue lors d'une partie? Vraiment, vous avez eu des sueurs froides?
Regarde en vite vers la gauche, donc on retourne dans le passé. Oui, je dis bien.
Bien. Non, c'est évident que quand on fait des bluffs à des moments stratégiques du tournoi, comme par exemple à la bulle. La bulle, c'est le moment juste avant d'arriver dans les places payées. Et si on fait un gros bluff et qu'il nous paye, on est éliminé du tournoi, on rentre à la maison, on est un peu plus stressé. Maintenant, le but, c'est que ça reste intérieurement et que ça se voit pas à l'extérieur.
Il y a déjà une nouvelle génération de poker. Est-ce que vous êtes déjà un vieux du poker, vous, David Iquita?
Ouais, je commence à être un peu un vieux. J'ai 43 ans maintenant, donc ça devient un peu vieux. Mais je suis pas pour autant non plus un vraiment vieux. Il y a des joueurs vraiment de 60 ans, il y en a beaucoup. Il représente peut-être 20%. Je crois que la moyenne d'âge sur un tournoi, c'est quelque chose. Mon âge, c'est la moyenne d'âge d'un tournoi.
Et vous pensez à la suite ou, comme on l'a dit, il y a des joueurs de poker qui vont jusqu'à 85 ans. Vous vous dites, je reste dans le poker, ou parce qu'on a parlé quand même des sommes que vous avez pu justement engranger au cours de votre carrière. Est-ce que vous êtes aussi un entrepreneur? Est-ce que vous investissez ailleurs? Comment est-ce que vous voyez le futur pour vous?
Ouais, c'est dur à prévoir exactement. Ce que je me suis promis, c'est j'arrête le poker le jour où de 1, ça m'amuse plus, c'est plus ma passion. Et, mais je pense que c'est pas prêt d'arriver. Et le deuxième élément, c'est si je suis un peu dépassé, si je me sens que je joue moins bien, je suis dépassé.
Quoi, avec des petits jeunes un peu plus stylés qui ont
été. Mais c'est surtout moi, je dois me réadapter toujours. Le poker évolue et ça demande une adaptation. Il faut toujours se remettre à jeu. Donc si un jour je réussis pas à me remettre à jeu, ben, sans doute j'arrêterai. Mais je pense que j'ai encore de longues années.
On l'espère.
Et est-ce que vous décririez votre vie aujourd'hui comme une vie saine? Vous arrivez à... Parce que c'est vrai qu'à nouveau, on peut avoir une image des poker, enfin des joueurs de poker qui jouent derrière leur ordi dans une salle sombre toute la journée, avec des chips.
Des sodas.
Ouais, exactement.
Ouais, mais c'est ça. Vraiment la grosse différence que j'ai vue avec le poker quand j'ai commencé à 15 ans et maintenant. C'est que vraiment maintenant, les gens font super gaffe à leur hygiène de vie et il y a moyen de vivre une vie très saine.
Est-ce que vous avez une responsabilité aussi quand vous allez dans des grands tournois internationaux de représenter la Belgique comme un diable rouge ou pas du tout?
Oui, quand même. Ouais. En tout cas, c'est une fierté de représenter son pays. Quand on gagne par exemple un bracelet, il y a toujours la Brabanson qui surgit devant
à Vegas, donc
à Vegas.
Donc, un bracelet, c'est un trophée, c'est ça,
voilà, championnat du monde. Donc c'est toujours des moments de fierté et voilà, je suis beaucoup de soutien des amis belges, donc ouais.
Et vous la chantez en français ou en flamand?
Je la chante en français, je me fais un peu engueuler par ma mère parce que je connais toujours pas parfaitement le flamand.
Vous êtes pas le seul. Merci beaucoup David Iquita, c'était un plaisir.